La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée à la jeunesse africaine en lutte pour son émancipation au lendemain des indépendances. Deux épisodes de la marche du monde à suivre sur RFI et à tout moment sur votre mobile grâce à notre application RFI Pure Radio.
Je suis Birayimba, j'ai fait mes études à Dakar. 68, c'est la plus belle période de ma vie. Ça, je m'en souviens. Ça, c'est le mouvement qui nous appartient, c'est appartient à la jeunesse sénégalaise.
La voix de Birayimba dans la marche du monde. Il a fait 68 à Dakar et c'est un mouvement qui appartient à la jeunesse sénégalaise et je dirais même plus africaine. Un mouvement méconnu et peu étudié et pourtant bien présent à l'échelle du continent. 50 ans après le printemps 68, il était temps d'intégrer les étudiants africains à la grande internationale anti-impérialiste. Car eux aussi ont voulu changer le monde néocolonial dans lequel ils avaient grandi. 68 dans les Afrique, avec les témoignages de celles et de ceux qui ont fait la révolution à Dakar, mais aussi à Brazzaville. C'est notre premier épisode avec nos invités historiens, Omar Gueye, Héloïse Kiriakou et Françoise Blum. Bonjour Françoise Blum.
Bonjour Valérie.
Et merci de nous accompagner pour ces deux épisodes de la Marche du Monde consacrée à 68 dans les Afriques. Vous co-dirigez un ouvrage qui fait date, il s'intitule « Étudiants africains en mouvement » et c'est un peu la suite de votre livre précédent « Révolutions africaines » où déjà vous nous aviez éclairé sur le militantisme des lycéens au Congo, au Sénégal et à Madagascar. Alors ce sont des mouvements d'étudiants africains encore peu connus et qui perpétue l'idée reçue selon laquelle 68 n'aurait pas eu lieu en Afrique. Que répondez-vous, Françoise
Blum ? Bien sûr, 68 a aussi eu lieu en Afrique. Je dirais que ce sont des mouvements étudiants, mais quelquefois qui font la jonction avec les syndicats ou avec les mouvements de travailleurs, un peu comme le Mai français, mais parfois même avant le Mai français. Donc l'Afrique nous permet de revisiter un peu la chronologie de ces années 68. Je dirais même peut-être que le premier de ces mouvements, bien qu'il avorte à cause de la répression, ça se passe en Guinée, en 61, au moment du complot des enseignants. Ce sont des enseignants qui réclament un certain nombre de choses, parce qu'on est revenu sur leurs privilèges, parce que Sékou Touré est revenu sur leurs privilèges, et les élèves vont alors prendre la défense de leurs enseignants arrêtés par Sékou Touré. Mais ce mets-là, entre guillemets, avorte. Par contre, après, on aura toute une série d'autres mouvements dont nous allons parler.
Alors, je vous propose justement de partager avec nos auditeurs un 68 sénégalais, pour lequel je me suis rendue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 80 000 étudiants à ce jour, à la rencontre du professeur d'histoire Omar Gueye et de notre grand témoin Birayimba, mais aussi des étudiants du campus.
Bon, je me nomme Laurent Manet, étudiant au département d'histoire. Alors, l'année 68, ça représente pour moi un sentiment de fierté. Parce que 68, c'est aujourd'hui, c'est une copie-collée pour nous. Nous avons touché l'année 68 à travers les grèves que nous faisons aujourd'hui. Nous avons le droit de faire la grève. C'est parce que l'année 68 nous rappelle beaucoup de choses et ce que nous vivons actuellement dans le pays de la Teranga.
Bonjour. Bonjour, je fais un petit reportage ici à l'université. John, est-ce que 68, cela évoque quelque chose pour vous ?
Oui, mai 68, ça évoque beaucoup de choses, évidemment, pour les étudiants de l'université Cheikh Anta. Parce que nos aînés ont eu à faire face à l'état du Sénégal, jusqu'à le pousser à fermer l'université pendant un an. C'était vraiment pour tous les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, surtout ceux qui se réclament aujourd'hui. Des syndicalistes, une journée de référence ou bien une période de référence pour eux.
Est-ce que c'est une période qui vous fait rêver, qui vous inspire? Comment vous voyez cette période, vous?
Oui, c'est une période qui nous a fait rêver, d'autant que tout juste après les indépendances, l'État du Sénégal n'avait pas mesuré l'importance de réformer notre système éducatif, qui était essentiellement calqué sur l'ancien modèle colonial. Mais après mai 68, le gouvernement sénégalais a jugé nécessaire de mettre en place des réformes avec la loi du 3 juin 1971 qui n'est que la conséquence de mai 68.
Je m'appelle Kumbanya.
Vous êtes étudiante ici à l'UCAD.
Oui, je suis étudiante en espagnol, en master de cinquième année.
Avez-vous déjà entendu parler des événements de 1968 ici à Dakar?
1968, désolée, mais...
Et vous-même, hein?
Des recherches?
Non, c'est pas un piège, c'est pas une interrogation écrite. Pour moi, c'est important de savoir si ça vous parle ou pas, quoi. Quel est votre prénom, mademoiselle?
Louise Anne.
Louise?
Oui.
Alors dites-moi, Louise, dites-moi tout.
Franchement, ça ne me dit rien. Franchement.
Personne ne vous en a jamais parlé?
Non. Peut-être que s'il y a eu un événement, normalement, nous devions être informés. Mais de ma part, j'en ai rien entendu. Et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé.
Omar Gaye, c'est intéressant, lorsqu'on traverse le campus de l'université de Dakar, ici à l'UCAD, et qu'on discute un peu avec les étudiants, ils n'ont pas forcément conscience qu'il s'est passé quelque chose de très important ici, il y a 50 ans.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent à Dakar, hein, donc peut-être entre les mouvements, les gens vont se perdre. Donc chaque génération, depuis, disons, peut-être ces années 60, a sa façon de vivre ses revendications, à sa façon d'être rebelle, quelque part. Déjà en 68, on parlait de massification, c'était la question des bourses qui se posait. Imaginez maintenant que le nombre d'étudiants a été multiplié par N aujourd'hui. Donc ça multiplie aussi les problèmes et les revendications. Donc, ce qui peut paraître assez cyclique, ces revendications, donc une répétition de tous ces événements qui font que l'université a toujours été ce foyer d'agitation.
Alors justement, on va revenir à cette génération de 68 avec vous, Omar Gaye, puisque vous m'emmenez rencontrer un des grands témoins de 68.
Surtout, vous allez voir que souvent, les principaux acteurs sont devenus d'illustres anonymes aujourd'hui. C'est à l'image de celui qu'on va voir tout à l'heure, Birahim Ba.
Donc Birahim Ba, membre du comité exécutif de l'UDES.
Donc l'UDES, c'est l'Union démocratique des enseignants du Sénégal, donc qui était une organisation des Sénégalais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, toutes les nationalités avaient leur organisation. C'est ce qu'on appelait les unions nationales et l'UDES en faisait partie. Comme les Guinéens avaient leur organisation, les Dahoméens à l'époque actuelle Bénin avaient leur organisation, les Togolais, donc les Mauritaniens, les Voltaïques, devenus aujourd'hui Burkina Faso, ils avaient tous leur organisation nationale. Et toutes ces organisations se regroupaient dans ce qu'on appelait l'UED, c'est l'Union des étudiants de Dakar.
Située à une demi-heure de voiture de l'université de Dakar, nous arrivons à l'école Dara Aïcha, un établissement privé où l'étude de la religion musulmane se conjugue au programme de l'éducation nationale. Un nouveau modèle éducatif auquel croit Birahim Ba après avoir consacré toute sa vie à l'enseignement. Un modèle bien éloigné de celui de l'université laïque de Dakar, calqué sur l'université française où Birahim Ba a fait ses études dans les années 60.
En 1968, je devais avoir 22, 23 ans. On n'était pas très nombreux. 3 000 étudiants. Dans ma classe, en histoire, on était à peu près une dizaine. Hein.
Vous êtes issu de quel milieu? Pourquoi vous avez voulu aller à l'université?
Mon père était un commis de l'administration qui m'a inculqué le goût de la lecture. Il avait une bibliothèque. Il y avait tout Victor Hugo, Dumas, tout ça là. Il avait ça. Il était féru de livres. Et donc, cette soif de lire, je l'ai complétée aussi par d'autres lectures. Capitaine Mickey, Rodeo, Kit Carson, tous ces trucs-là, Tintin.
Les comics.
Spirou, je lisais beaucoup. Quand je suis venu à l'université, j'avais demandé une orientation en lettres modernes. Je suis allé une semaine et j'ai demandé une réorientation. Parce que les profs qui étaient là-bas, c'était des gens très guindés, qui avaient une certaine manière de considérer la langue française, qui finalement, moi, me rebutait.
À l'époque, c'était des enseignants français ou africains?
C'était des enseignants français. Quelques rares Africains. Il y avait Mohamedou Kane qui était là-bas. Il y avait quelques Sénégalais. Il y avait Omar Kane. Hein. Il y avait Sekene Modou Sissoko. Tous ces gens-là, vraiment, m'ont apporté quelque chose d'extraordinaire. Donc avant mai, que mai 68 nous démarre, j'étais un étudiant tout tranquille. Et en 68, cette mai 68 est venue et j'ai été happé par le mouvement.
Mais alors de quelle façon, puisque vous n'étiez pas politisé?
Alors, il y avait des assemblées générales d'étudiants, il y avait une organisation d'étudiants, l'Union démocratique des étudiants sénégalais, et des assemblées générales. Et c'est lors de ces assemblées maintenant que les gens étaient élus. J'ai levé ma main, on m'a élu. Donc c'était extraordinaire. Je me suis retrouvé tout d'un coup catapulté dans des histoires que je comprenais difficilement. Et l'histoire s'est déroulée vraiment avec une accélération extraordinaire. Et lorsque donc mai 68 est arrivé, pratiquement j'ai dégagé de tout ça et je me suis retrouvé donc dans la tourmente.
Alors la tourmente, qu'est-ce qui fait que vous vous mettez à militer, à revendiquer au sein de l'Union des étudiants sénégalais?
Il y a eu maintenant le problème des bourses. C'est ça qui a entraîné la grande crise. Moi, j'ai dit que à l'époque, avec ma bourse d'étudiant, je pouvais payer ma chambre, payer ma nourriture, donc aller au restaurant, essayer de trouver un restaurant, et on mangeait très bien. Le problème des bourses, c'était un problème parce que l'État a décidé tout d'un coup qu'il fallait diviser les bourses. Il y avait des bourses entières, il y avait les demi-bourses et les quarts de bourses. Et ça, les gens ne voulaient pas en entendre parler.
Vous fermez les portables là. Je ne veux pas les voir, c'est ça que j'ai dit.
En 1968, le président Senghor est au pouvoir depuis 8 ans. Il a écarté toute forme d'opposition. Mamadou Dia, le cofondateur de son parti, l'Union progressiste sénégalaise, est en prison. C'est le règne absolu de l'UPS. Et selon Omar Gueye, auteur de mai 68 au Sénégal, le problème des bourses est donc révélateur d'un malaise plus profond.
À partir de cette époque, c'est l'UPS qui était la seule organisation présente dans l'espace politique. Et c'est ce qui donnait un sens au campus. Parce que tous ces partis qui étaient soit dissous ou interdits, cette opposition qui n'avait pas de base légale donc, de se manifester, s'était réfugiée dans le campus. Le campus était devenu un espace d'expression. C'est ce qui fait que, par exemple, le PAI était, même si il était dans la clandestinité, était très présent au niveau du campus.
Vous voulez dire que le parti africain de l'indépendance, qui est un parti clandestin puisqu'il a été interdit par Senghor, il est présent au campus et ses anciens membres infiltrent les syndicats étudiants?
En fait, ce sont des étudiants. Ce sont des étudiants qui avaient le droit de s'organiser, mais avec l'étiquette du PAI, donc il y avait le mouvement qu'on appelait le MEPAI, le mouvement des étudiants du PAI. Et c'est une organisation qui était très dynamique, dont les membres aussi parvenaient à se faire élire au niveau des structures estudiantines. En 1968, il se trouve qu'au moins 3 ou 4 membres de cette organisation étaient dans la direction de l'UDS. Donc ce qui fait que quelque part aussi, le PAI était très présent dans la vie politique, donc à travers ces organisations, notamment cette organisation des jeunes, le MEPAI qui est très dynamique, donc qui a été aussi au front, une tête de proue dans l'organisation étudiante.
Moi, à mon niveau, je n'avais pas de lecture politique à proprement parler. Mais mes camarades, ceux avec qui j'étais, c'était des marxistes qui avaient donc des lectures très profondes. C'était des amis qui étaient très poussés, qui me parlaient de Rosa Luxembourg, de Lénine, de Marx, de Trotsky. De tout ça là, c'était une culture qui était largement répandue au niveau de l'université. Et tout le monde était là.
Est-ce que vous diriez, Biraimba, que le fait d'être élu, d'être membre du bureau de l'UDES, de l'Union des étudiants sénégalais, est-ce que ça a été votre école politique?
Ah oui, ça a été mon école politique. Parce que quand j'ai été élu, je commençais à prendre les réunions d'instance. Il y avait des débats, il y avait un ordre du jour, il y avait tout ça. Moi, je ne connaissais pas ça. J'ai commencé à me rendre compte aussi de l'existence de partis politiques. Une fois, là, j'ai raconté ça à quelqu'un. Là, je lui dis que je suis parti dans la chambre de Mbaye Diack. J'ai trouvé des papiers là. Je commençais à lui dire, toi là, tu t'occupes pas de ça. Allez, garde ça. C'était des trucs de réunion, des papiers là, qui issus des réunions du PAI, je crois.
Du Parti africain pour l'indépendance, qui à l'époque est un parti clandestin.
Oui, voilà.
De quoi vous prenez conscience à ce moment-là?
Je prends conscience du fait que les leitmotifs qui sortaient surtout de nos trucs, c'est l'anti-impérialisme. Impérialisme français d'abord. On avait ça en tête. L'anti-impérialisme, l'anticolonialisme, le fait de vouloir se battre et de créer une société qui puisse vraiment combattre cela et le relient du néocolonialisme.
Birahim Ba, ce que vous voulez dire, c'est que le problème, c'est que les enseignants étaient français.
Le problème, c'était qu'il y a un cadre général où il y avait la France qui nous avait occupés et que donc maintenant, nous considérions que nous n'étions pas encore totalement libérés.
Clairement, ceux qui avaient fait le mouvement de mai 68, ce sont des enfants de la colonisation. Ils sont tous nés dans le régime colonial. Ils ont tous fait l'école coloniale. Ça veut dire que, quelque part aussi, ils ont connu, très jeunes, ces mouvements de nationalistes. Ils étaient aussi très informés du débat idéologique qui s'était passé, notamment la question du référendum.
Référendum pour dire oui ou non à De Gaulle, c'est-à-dire pour continuer à exister dans un espace de communauté française, ou alors au contraire pour aller vers l'indépendance.
Et clairement, il n'y a que la Guinée de Sékou Touré, donc, qui est devenue indépendante en 1958. Donc tous ces jeunes de 68 ont connu cette période à un très bas âge. Et ils ont baigné dans cette ambiance donc nationaliste et ça a pu faire des vocations parmi eux. Et aussi, ils ont été à l'école qui était la contradiction principale. Parce que, rappelez-vous, jusqu'en 68, l'université était encore française. Donc, regardez tous ces enfants de la colonisation, pourquoi ils sont très tôt habitués à ces thèmes de lutte anticoloniale, mais cette fois-ci de lutte anti-néocoloniale. Parce qu'il contestait toujours clairement la présence française donc, jusqu'aux années 1958. Bon, maintenant, il y a l'ambiance de l'époque qui faisait qu'aussi ils étaient pas seulement des nationaux sénégalais, mais africains. Ils s'intéressaient à tout ce qui se passait en Afrique. Il y a eu le renversement de Nkrumah, le président ghanéen, en 1966, qui a été aussi un élément fondateur où les étudiants ont protesté. C'était la première fois que l'université a été fermée et les étrangers renvoyés chez eux. Il y a eu la question du Vietnam, où ils contestaient aussi la guerre. Et aussi, surtout, il y a la question de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, les étudiants de Dakar, clairement, avaient manifesté leur sympathie pour toutes ces causes.
Alors parlons justement de votre environnement culturel, Birahim Ba. Se libérer de l'impérialisme français, ça se traduisait comment par rapport aux artistes qui vous intéressaient, aux musiques que vous écoutiez, aux livres que vous lisiez?
On écoutait du free jazz. J'avais des camarades qui on écoutait aussi de la musique du jazz pure. Mais ce qui dominait au niveau de l'université, ou du pavillon de l'université, de la cité universitaire, c'était la musique guinéenne. Mais alors, moi, j'avais tous les disques, la plupart des disques sont chez moi.
Des disques vinyles avec les pochettes.
Voilà. Hein? Et il y a surtout un morceau qui nous a tous frappé, c'était sur cette histoire de Samori Touré. Ça, c'était un chef-d'œuvre pour nous. Parce que ça, c'était en porte-à-faux avec l'idée coloniale. C'était un combattant qui était contre le colonialisme, qui s'est battu contre le colonialisme, et que le colonialisme a vaincu sur des bases, disons, de supériorité militaire, tactique peut-être, et même en utilisant la traîtrise, comme on dit. Donc, vraiment, moi, Sékou Touré, j'ai jusqu'à présent, une très grande idée de Sékou Touré.
L'air que vous entendez est une composition en l'honneur de l'empereur du Wassoulou, l'Almami Samori Touré, dont la lutte anticolonialiste a donné naissance aux plus belles chansons de geste d'Afrique. Ayame,
quand vous l'écoutez, qu'est-ce que vous ressentez? C'est très mouvant.
Une fierté, ça nous mettait vraiment dans un état extraordinaire. C'est une musique qui nous aidait beaucoup. Il y avait d'autres musiques qu'on écoutait. Hein. On écoutait beaucoup de jazz, John Coltrane. On aimait aussi écouter les Jimi Hendrix et consorts, Bob Dylan, Janis Joplin. Tout ça, nous avons vécu ça, nous avons grandi dans ça et ça nous mettait un peu en liaison avec les jeunesses, toute la jeunesse du monde.
Le président Senghor accuse la main étrangère. Quels étaient vos liens avec justement les étudiants français ou bien avec les étudiants africains qui étudiaient à Paris et qui sont revenus ici à Dakar?
C'était le même, le link, comme on dit.
Le lien.
Le lien s'est établi entre nous. Il y avait des différences de niveau au niveau de la perception des événements.
Ceux qui arrivent de Paris, comme Omar Diop Blondin, quel est leur discours? Est-ce qu'ils sont marxistes? Est-ce qu'ils sont maoïstes? Quel est leur discours?
Ils sont plutôt marxistes. Les méthodes des étudiants français, bon. Mais 68, ceux qui ont vécu ça ont vu que ça a vraiment explosé là-bas. Et ils avaient une idée que nous, ici à Dakar, on n'avait pas encore développé ce volet-là. Nous n'étions pas là-dedans, je n'étais pas marxiste. Et moi, ça m'a passé un peu par-dessus la tête.
Il y a effectivement eu donc une connexion entre les étudiants de Dakar et les étudiants de Paris. Mais de façon formelle, on ne peut pas dire que donc, c'est un mouvement qui a été copié de Paris, c'est un mouvement qui a été reçu de Paris, parce que c'est comme j'ai dit, le mouvement de mai 1968 au Sénégal obéit à des causes nationales. Et c'est à partir de raisons spécifiques que les étudiants de Dakar donc, ont très tôt commencé à... Voilà, c'est une raison objective, la question des bourses. N'est-ce pas? Donc, qui a été le point déclencheur de la crise. Et après, maintenant, il y a eu un déroulement, une scénographie nationale. Maintenant, bon, bien sûr, au niveau politique, c'est de bonne guerre dans la propagande de Senghor. Donc, de parler de la main extérieure, comme il a dit dans son discours du 30 mai, que les étudiants de Dakar singeaient les étudiants de Paris, etc. etc. Mais ça, c'était de bonne guerre. Il était dans la bataille de l'opinion, la bataille de propagande.
En pleine guerre froide, alors que les modèles communistes et capitalistes s'affrontent à l'échelle de la planète, Senghor entend mettre la jeunesse au pas de la construction nationale du Sénégal, un socialisme à l'africaine qu'il éclaire de sa pensée. Sourd à la contestation étudiante, le président poète choisit de réprimer la grève et envoie l'armée sur le campus le 29 mai 1968. Je demande à Birahim Ba, quel est votre souvenir de cette journée?
Un souvenir atroce. Parce que je me rappelle bien les circonstances. Ils nous ont poursuivis depuis les facultés et on est venu se réfugier dans le pavillon A, le grand pavillon de l'université. Alors, je me rappelle bien Abdoulaye Makhtar Diop, qui est actuellement le grand seigneur de Dakar. Il me dit, hey boy, on va aller dans ta chambre. J'habitais au couloir V, en haut. Et on entendait les grenades éclater, des portes qu'on défonçait. Mais c'était atroce. On entendait des grenades exploser, des portes qu'on défonçait. Et même des cris, n'est-ce pas, des étudiants qui étaient pris dans les chambres. Ils sont venus, ils ont défoncé la porte. Allez debout, on s'est levé, les mains en haut, on m'a donné un coup de crosse derrière le dos. Mes lunettes sont tombées. Donc vous voyez une sauvagerie extraordinaire, n'est-ce pas. Ils balançaient les grenades dans les chambres. Ça, on a vécu ça. C'était extraordinaire et je ne sais pas si ces gars-là étaient drogués ou non. Mais nous avions eu l'impression vraiment que ces gars-là, parce qu'on ne leur avait rien fait, ils nous considéraient comme des ennemis mortels qu'il fallait liquider.
Birahim Ba, au sein de l'UDES, vous qui êtes membre du bureau, après l'intervention des militaires sur le campus, donc le 29 mai 1968, ici à Dakar, votre colère ne se tourne toujours pas contre Senghor?
Ah si, on lui en voulait. Moi, d'ailleurs, jusqu'à présent, moi, Senghor, je lui en veux. Jusqu'à présent, je lui en veux. D'abord, je crois que je lui en veux parce que c'était un grand intellectuel, mais je lui en veux de n'avoir pas pris un peu de recul par rapport à la France. Il était trop du côté français. Et ça, moi, je ne lui pardonne pas ça.
D'après l'historien Omar Gueye, les forces militaires font de nombreux blessés et même deux morts. Les leaders sénégalais sont arrêtés et internés dans un camp militaire, tandis que les autres étudiants sont renvoyés dans leur pays d'origine ou encore expédiés à Paris avec des bourses pour continuer leurs études. Senghor fait volte-face et négocie, mais son pouvoir a été réellement ébranlé.
Clairement, l'image de Senghor s'était écornée en 1968. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à travers la crise, il n'est pas invincible. Il a été ébranlé, même si son pouvoir n'est pas tombé. Et ça a été une alerte. Et à partir de 68, maintenant, il va reprendre en main son parti. Et même au niveau de l'État, parce que dès 70, il cesse d'être au devant, il va avoir un premier ministre. C'est Abdou Diouf.
Et c'est la première fois qu'il retrouve un premier ministre. Donc il partage le pouvoir.
À partir de 68... Pas seulement les étudiants, mais les travailleurs, les organisations, de façon générale, se sont rendus compte que la lutte pouvait payer. Et Senghor aussi avait fait la lecture de 1968 en réorganisant son parti, en rappelant les anciens qui avaient été plus ou moins écartés, et aussi en reprenant en main l'organisation syndicale, l'UNTS. Et aussi, clairement, en 68, il y a eu ce qu'on avait appelé la réduction du train de vie de l'État.
Omar Gueye, en ce qui concerne la jeunesse, l'université, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est d'abord une prise de parole? Est-ce que c'est d'abord la formation politique de toute une génération?
Oui, les étudiants se sont rendus compte qu'ils avaient repris le flambeau que les partis de gauche avaient laissé choir. Les étudiants qui ont été choqués, qui ont eu une nouvelle expérience, se sont aussitôt investis dans les partis, pour beaucoup d'entre eux. Donc la jeunesse qui a voulu imposer, comme ailleurs, ce qu'on appelait le pouvoir étudiant, ont pu avoir la certitude que la lutte pouvait payer. Et à partir de ce moment, les choses ne seraient plus les mêmes. Et dès 1969, ils vont remettre ça. Et l'université va entrer dans un cycle de grève, de répression, de confrontation jusqu'aux années 1970.
Alors pour en revenir à vous et pour conclure, qu'est-ce que 68, ici à Dakar, Birahim Ba, a changé pour vous?
Sur le plan individuel, ce coup de feu qu'on a eu avec l'État, mais ça a forgé beaucoup de mentalités. Volontairement, j'ai été au parti du professeur Cheikhanta Diop, RND, Rassemblement National Démocratique. Moi, Birahim Ba, je me suis engagé de manière délibérée dans un parti politique. Bon, fondamentalement, moi, j'étais de gauche, j'étais loin, je n'étais pas dans ce régime-là. J'étais contre l'UPS, l'Union Progressiste Sénégalaise, qui est devenue Parti Socialiste par la suite. Ma génération de 70, c'est des gens qui croyaient en certaines idées, forces. Travailler pour le peuple, aller dans l'intérêt, dans le sens de l'intérêt du peuple. Et je suis resté fidèle à ça.
Mai 68 à Dakar avec notre grand témoin Birahim Ba, ancien membre de l'UDES, l'Union des étudiants sénégalais, et l'historien Omar Gueye, auteur de Mai 68 au Sénégal, un grand reportage que nous avons écouté ensemble. Françoise Bloom, merci de nous accompagner pour ces deux épisodes de la Marche du Monde consacrée à 68 dans les Afriques. L'occasion de rappeler la singularité du cas sénégalais par rapport à d'autres mouvements, Françoise Bloom, puisque vous montrez dans votre livre, Étudiants africains en mouvement, que les mouvements sont extrêmement diversifiés. Est-ce que l'on devrait, par exemple, séparer les mouvements qui ont voulu prendre les pouvoirs et donc qui ont utilisé des moyens violents, des mouvements comme au Sénégal, qui ont été des mouvements plus d'émancipation et de prise de parole d'une jeunesse grandie dans une Afrique coloniale, comme l'a rappelé Omar Gueye?
Je ne sais pas s'il faut faire cette différence de façon aussi tranchée, c'est-à-dire, je pense que ces mouvements, pour beaucoup, ont voulu que le pouvoir tombe, mais sans forcément avoir envie de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de parti, d'opposition, de structure qui se posait en successeur. Et je ferai un peu le rapport avec la révolution arabe. C'était « dégage ». C'était dégage au Sénégal, c'était dégage au Congo, c'était dégage à Madagascar, mais on ne savait pas quoi mettre après. Donc, dans certains cas, et c'est le cas à Madagascar qu'on verra, je crois, dans une autre émission,
la semaine prochaine,
les manifestants ont appelé l'armée à prendre le pouvoir, tout simplement parce qu'il y avait un vide et qu'ils avaient peur du vide. Donc c'est un peu le paradoxe. Au Congo, ça va être la jeunesse qui, à un moment, va effectivement diriger le pays à la mode marxiste-léniniste, etc. Jusqu'au coup d'État de 68. Et là aussi, ça sera un militaire, Marine Gwabi, qui va prendre le pouvoir. Donc c'était ce phénomène-là. Dégage, on luttait contre le pouvoir en place, mais on n'avait aucune prétention, finalement, ou aucun moyen de le remplacer.
Alors c'est très intéressant parce que ça pose la question de la relation des jeunesses africaines donc issues de l'indépendance, hein, puisque nous nous intéressons à cette séquence des années 60 et 70 dans les Afriques, avec les pères de l'indépendance. Parce que les pères de l'indépendance comptent bien sur cette jeunesse pour construire ces nouvelles nations africaines.
Tout à fait. C'est vrai qu'il y a un espèce de rejet de ces père de la nation, père des indépendances, etc., comme Senghor, comme Youlou au Congo, comme Tirana à Madagascar, par la jeunesse. Moi, je pense vraiment que ça, c'est une génération, celle du 68 sénégalais, de 63 au Congo. C'est une génération qui est celle des déçus de l'indépendance, qui en fait en attendait monts et merveilles quelque part, et qui voit que ça ne se réalise pas, que tout ce que promettaient les indépendances, et ben finalement il en reste pas grand chose. D'où ils rejettent la faute évidemment sur ceux qui ont négocié ces indépendances, puisque on l'a dit et vous le savez, ce sont des indépendances qui ont été pacifiquement négociées, contrairement à ce qui s'est passé en Algérie bien sûr et au Cameroun. Donc, ils rejettent cette faute, leur déception quelque part, sur ces pères de la nation. Et ce que disait Omar Gay aussi est tout à fait juste. C'était un monde de partis uniques. L'Afrique, à ce moment-là, c'est l'Afrique des partis uniques. Partis uniques conçus comme instrument de la construction nationale, pour venir à bout des rivalités ethniques, etc. C'est donc l'Afrique des partis uniques, avec des volontés d'intégration syndicale, ce qui sera fait au Sénégal en 69, avec la CNTS qui remplace l'UNTS. Et donc, il ne reste plus beaucoup d'espace pour les oppositions. Et les seuls espaces qui restent, c'est donc les campus, les universités, les jeunes et, marginalement, les syndicats, quand ils peuvent encore lutter contre le pouvoir. Et ce qu'il faut dire au Sénégal, c'est que les revendications des étudiants et celles des syndicalistes se rejoignent complètement. L'UNTS avait déposé un cahier de revendications où elle demandait une éducation pour tous, où elle demandait aussi l'africanisation des cadres. Et c'est ce que voulaient les étudiants, l'africanisation. Alors je voudrais souligner quand même un tout petit paradoxe, c'est qu'en fait cette réduction des bourses qui a été la cause première, même si après le mouvement se politise tout de suite très très vite. En ce qui concerne le Sénégal, cette réduction des bourses, elle est liée au fait que la France paye un peu moins. C'est-à-dire que effectivement, c'est encore une université à peu près française, le recteur est français, les personnels enseignants sont majoritairement français, le sort de l'université est décidé conjointement sénégalais-français, mais la France paye aussi. Et en fait, quand elle retire ses billes, ça crée évidemment un manque financier, alors que l'université multiplie ses effectifs. D'où problème et d'où cette volonté de réduire les bourses. Alors qu'à l'époque, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les bourses, elles étaient très généreuses. C'est-à-dire, on attribuait très facilement des bourses aux bons élèves, ce qui permettait des formes de promotion sociale assez importantes.
Françoise Blum, vous l'avez évoqué, ce fameux dégage adressé aux pères des indépendances africaines ont retenti en Guinée avec le mouvement des enseignants, mais très rapidement après au Congo-Brazzaville, et nous sommes en 63, et là ce dégage s'adresse à Fulbert Youlou, donc le premier président congolais.
Tout à fait, et il se passe au Congo ce qui se passera au Sénégal, ce qui se passe à Madagascar. Au Congo, c'est très rapide, hein. C'est en 3 jours que le pouvoir va tomber. Mais ce qui se passe, c'est qu'au début, on n'en veut pas vraiment à Youlou. Au début, les manifestants, ils s'en prennent plutôt au ministre corrompu de Youlou. Youlou est à peu près exempt. Et Youlou ne réagit pas, ou il réagit très mal, ou il ne sait pas réagir. Et très vite, les manifestants vont se tourner contre lui, contre le chef de l'État. La case de sa maîtresse va être incendiée, de sa mère aussi va être incendiée, et on va demander la chute de Youlou. Alors la différence aussi entre le Congo et le Sénégal, enfin il y en a bien d'autres bien sûr, mais disons une des différences, c'est que la France ne va pas soutenir Youlou. C'est-à-dire que l'armée française, elle intervient un tout petit peu au début, et puis après elle n'intervient plus. Donc Youlou, après un coup de téléphone à De Gaulle, c'est après un coup de téléphone à De Gaulle qu'il démissionne, et la France ne le soutient pas. La France, de toute façon, soutient Senghor. Et quoi qu'il arrive, aurait soutenu Senghor, parce qu'elle est considérée comme son meilleur allié en Afrique. Pour Madagascar, c'est la même chose. La France ne va pas soutenir Tsirane, qui d'ailleurs était très malade au moment où les événements ont lieu, et n'était plus capable de gouverner. Donc là aussi, il y a une différence, et le rapport à la France est intéressant à différents niveaux, évidemment.
Je vous propose justement d'écouter les acteurs de cette révolution de la jeunesse congolaise, présentée par l'historienne Héloïse Kiriakou, au micro de David Bachet.
Alors, la mobilisation, elle va culminer à partir de 63. Donc la mobilisation dans le cadre de l'insurrection populaire qui a eu lieu dans la ville de Brazzaville principalement pour renverser le gouvernement de Fulbert Youlou. Et c'est vrai que c'est dans le cadre urbain de Brazzaville que les jeunes vont s'organiser et tout d'un coup vont incarner l'alternative au régime politique déchu de Fulbert Youlou.
Et alors ces jeunes révolutionnaires, quelles sont leurs revendications ?
Dans les revendications sociales, il apparaît à cette époque-là que les jeunes sont très frustrés de leur situation de cadets sociaux, puisque dans le cadre de la société lignagère dont ils sont issus, c'est-à-dire que au Congo, vous avez une organisation familiale clanique qui maintient les jeunes dans une situation de cadets sociaux au même titre que les femmes. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre-là que, à Brazzaville, dans les centres urbains, va se développer une pensée alternative pour revendiquer une place dans la société bien plus tôt que ce qu'ils auraient pu espérer dans une société, dans cette société lignagère. Je dirais qu'ils ont aussi des revendications strictement politiques, puisque c'est les jeunes qui vont vraiment porter des revendications anticoloniale et aussi progressiste au sens large, puisque dans le cadre général des années 60 dans le monde, vous avez des mouvements de jeunesse très progressistes, voire socialistes, qui vont aussi avoir des échos au Congo-Brazzaville.
Et ces jeunes Congolais, est-ce qu'ils ont un porte-parole ?
Alors, les jeunes Congolais ont effectivement des leaders qui, pour certains, ont été formés en France. Vous avez entre autres Claude-Ernest Ndalagraye, qui va arriver au Congo juste au moment de la révolution, juste après, et il va venir non seulement avec son idéologie progressiste, puisqu'il a été formé au PCF, mais aussi avec un journal financé par l'URSS qu'on appelle Dipanda, et c'est grâce à ce journal qu'il va vraiment construire une alternative socialiste au Congo.
On va écouter Ernest Ndalagraye.
Il faut considérer que nous sommes dans un mode de production lignager, c'est-à-dire que tout s'articule sur le transfert et la circulation des femmes et les jeunes, c'est-à-dire les cadets sociaux, c'est-à-dire ceux qui sont issus de l'esclavage patriarcal et les véritables jeunes même qui sont du clan. Donc tout ça, ce sont les gens sur qui règnent les bureaucraties tribales. Donc vous ne pouvez pas trouver en ce moment-là des jeunes qui peuvent émerger en tant que jeunes, en tant que conscience.
Qu'est-ce que c'est que la circulation des femmes ?
Quand un oncle dans le sud ou un père dans le nord marie sa fille ou sa nièce, il perd un bras qui le nourrit et il essaie de compenser ce bras qui le nourrit par la dot. Dans le temps, la dot, c'était simplement des biens de prestige. C'était des biens qu'on ne consommait même pas. Mais avec l'emprise capitaliste, la dot s'est monétarisée. Donc quand l'oncle ou le papa perd des bras qui jusque-là le nourrissaient, ben, il est bien obligé d'essayer de compenser. C'est ça qui fait cette circulation des femmes et le travail des cadets sociaux, c'est ça qui enrichit les bureaucraties tribales. Donc ces bureaucraties-là n'ont pas intérêt à voir les jeunes émerger et avoir une conscience et une confiance en eux.
Les jeunes Congolais ont le sentiment d'être exploités par leurs aînés, ils veulent sortir de ce système lignagé, mais comment est-ce qu'ils définissent leur projet politique ?
On ne voit pas apparaître au début des discours qui étaient extrêmement construits, mais on va progressivement, voire des actions. La grande spécificité du Congo par rapport à d'autres pays africains, c'est qu'il va y avoir un réel investissement de l'échelle très locale. Donc ce n'est pas au sein des universités ou au sein des écoles, mais c'est vraiment au sein des quartiers que les jeunes vont se mobiliser, à la fois dans des activités de vigilance, des activités de nettoyage, des activités aussi d'alphabétisation, etc. Et donc il y aura diverses activités au quotidien qui vont permettre à ces jeunes de devenir vraiment les relais de ce nouveau régime au niveau local et incarner vraiment le changement.
Est-ce qu'ils ont des modèles ailleurs dans le monde pour toutes ces actions qu'ils mettent en œuvre ?
Alors, ils ont effectivement des modèles et c'est vraiment Ndala Gray, par exemple, ou d'autres, comme je dirais Martin Berry, je citerai aussi Ange Diawara. Ils ont des modèles et ce sont ces cadres-là qui vont être les passeurs de ces modèles-là. Vous avez bien sûr le modèle cubain, vous avez une grande proximité aussi avec la Chine et avec le Vietnam en guerre à l'époque. Bien sûr aussi avec ce qui se passe aussi ailleurs en Afrique, l'Afrique du Sud, l'Algérie. Donc, bien sûr que les Congolais s'inscrivent dans un combat à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle mondiale.
Vous avez parlé d'Ange Diawara, qu'on surnomme souvent le Che Guevara congolais. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui et de son rôle dans la révolution congolaise ?
Ange Diawara a eu un rôle extrêmement important, puisque après la formation dans ces quartiers et les activités très importantes qu'on a pu observer, vous allez avoir une structuration au sein du Parti Unique. Donc en 64 va être mis en place le Parti Unique qu'on appelle le MNR, le Mouvement National de la Révolution. Et c'est au sein de ce MNR que va être structurée véritablement la jeunesse. Et c'est Ange Diawara qui va, une année plus tard, être le chef de la milice populaire. Et c'est là sa grande force, puisque Ange Diawara va être le chef de la défense civile, cette milice populaire qui a été donc une force militaire plus importante que l'armée en termes et de moyens et d'hommes, et eux ont été formés par les Cubains.
Les femmes ont pris la tête de milices armées pendant cette révolution de la jeunesse au Congo en 1963. Pour quelles raisons ? Comment est-ce qu'elles sont arrivées à prendre la tête de ces groupes armés ?
Je dirais que l'impulsion ne va pas venir des femmes directement, mais je pense que Ange Diawara a été l'initiateur de cette brigade féminine qui a été une brigade particulière de la défense civile. Et par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres pays, la brigade féminine au Congo-Brazzaville va avoir un enseignement militaire extrêmement poussé jusqu'à un entraînement qui peut s'apparenter à celui des parachutistes. Et elles vont donc avoir une influence très grande au sein de ces milices, puisqu'elles vont avoir un rôle d'encadrement. Et beaucoup d'entre elles, le soir et en journée, vont animer et former aussi des miliciens masculins. Et donc, il y a une inversion des rôles comme ça qui est assez intéressante. Je dirais que l'impulsion ne va pas venir des femmes directement, mais je pense que Ange Diawara a été l'initiateur de cette brigade féminine qui a été une brigade particulière de la défense civile. Et par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres pays, la brigade féminine au Congo-Brazzaville va avoir un enseignement militaire extrêmement poussé jusqu'à un entraînement qui peut s'apparenter à celui des parachutistes. Et elles vont donc avoir une influence très grande au sein de ces milices, puisqu'elles vont avoir un rôle d'encadrement. Et beaucoup d'entre elles, le soir et en journée, vont animer et former aussi des miliciens masculins. Et donc il y a une inversion des rôles comme ça qui est assez intéressante. Ça ne va pas durer extrêmement longtemps, mais les brigades féminines vont jouer un rôle aussi symbolique sur cette révolution. Mais je dirais que réussir à créer un système politique multicéphale où les militants jeunes ont joué un rôle aussi fort, c'est du jamais vu en Afrique à cette époque-là.
L'historienne Héloïse Kyriakou au micro de David Bachet au sujet donc de cette révolution congolaise entre les oreilles de notre invitée Françoise Blum, co-directrice de l'ouvrage Étudiants africains en mouvement aux presses de la Sorbonne. Françoise Blum, j'aimerais que l'on revienne justement sur ce cas très exceptionnel quand même du Congo-Brazza, puisque les moyens utilisés sont quand même ceux de la lutte armée, ce qui est assez rare hein, dans ces révolutions africaines. Un mouvement qui est né très tôt, qui n'est peut-être pas un mouvement initié uniquement par les étudiants. Est-ce que là, on n'est pas sur un phénomène beaucoup plus large au Congo-Brazza ?
Bien sûr, au Congo-Brazza, en fait, c'est les syndicalistes qui ont initié le mouvement, parce qu'il y avait des négociations, parce que Youlou voulait créer un parti unique, c'était, comme je l'ai dit, à la mode en Afrique. Et il avait convoqué syndicalistes et certains politiques à la table des négociations. Mais les négociations ne se passaient pas bien. Du coup, les syndicalistes étaient fort mécontents, d'autant plus que Youlou était quelqu'un de profondément anticommuniste. Donc, ils se sont réunis à la Bourse du Travail et il y a eu l'arrestation de 3 d'entre eux. Et c'est alors que les syndicalistes vont mener la révolte, mais rejoints par la jeunesse, les jeunes des, comme disait Balandier, des Brazzaville noirs.
Georges Balandier, donc l'anthropologue.
Voilà, Georges Balandier. Et c'est cette conjonction entre les syndicalistes, le petit peuple de Brazzaville, et massivement les jeunes, qui va créer ces 3 jours appelés les 3 glorieuses.
Alors, ce qui est très intéressant dans les témoignages d'Ernest Dalagral et de Jeanne Ibata, c'est que on comprend à quel point les acteurs sont également des actrices et à quel point les jeunes garçons et les jeunes filles au Congo se sentent opprimés par leurs aînés au point de prendre les armes.
Oui, alors ils prennent les armes et ils ne les prennent pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie guerre. Hein. Mais il y a un peu une atmosphère au Congo de 63-68 que je qualifierais d'atmosphère de l'an 2 en référence à la Révolution française. C'est-à-dire l'idée d'une patrie en danger qu'il faut défendre, parce qu'il faut dire qu'il y a aussi des tentatives de coup d'État, qu'on se méfie un peu de tout, on se méfie au-delà peut-être du raisonnable. Et c'est cette atmosphère avec les milices formées par les Cubains et qui aussi donne donc une place aux filles qui font partie de ces cadets sociaux, que sont donc les jeunes et les femmes. Et moi, la référence qui me vient à l'esprit, qui est fort connue évidemment de manière générale quand je pense au Congo et cette espèce de prise de pouvoir armée de la jeunesse de 63 à 68, c'est la révolution culturelle en Chine. À ceci près, bien entendu, que la révolution culturelle chinoise est venue d'abord d'en haut, feu sur le quartier général, alors que la révolution congolaise, ce n'est pas un ordre d'un pouvoir qui a fait se lever les jeunes. C'est les jeunes qui se sont levés. Mais il y a cette même idée d'une prise de pouvoir de la jeunesse qui remet en cause l'oppression vécue des aînés. Et c'est assez intéressant de comparer les deux. Alors on sait aussi qu'en Chine, c'est pareil, les gardes rouges vont être réprimés par l'armée. Je dirais qu'au Congo, c'est ce qui se passe. C'est l'armée, en la personne de Marine Ngouabi, qui va désarmer les milices jeunes.
Est-ce que la figure de Ange Diawara, donc ce Che Guevara congolais, est restée mythique au Congo de la même façon que la figure du Che est restée mythique à l'échelle mondiale, je dirais?
Je pense qu'on sait qui est Ange Diawara. Il faut dire que le mythe de Che Guevara aussi au Congo est un peu particulier parce que, comme vous le savez, le Che a mené une expédition au Congo, l'autre Congo, Congo-Kinshasa. Congo-Léopoldville, mais une expédition qui s'est soldée par un retentissant échec. Mais il semble qu'il n'ait pas très bien compris les Congolais. Il a attendu pendant toute cette expédition Kabila, le père de l'actuel Kabila au pouvoir, et Kabila n'est jamais venu ou s'est fait attendre, désirer. Donc ça a quand même été un échec, malheureusement, je pourrais dire.
Merci Françoise Blum, et rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode de 68 dans les Afriques, consacré à Madagascar et au Mali. Plus d'infos sur notre page La Marche du Monde et sur notre site RFI.fr. Réagissez sur les réseaux sociaux, exprimez-vous, podcastez. Cette émission réalisée par Sophie Janin, c'est la vôtre.